19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir chers amis auditeurs, merci d'être avec nous, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est un plaisir de vous retrouver. Encore une fois, bonne année, tous mes vœux les meilleurs, c'est parti, jusqu'à 20h, on commente, on analyse, on décrypte l'actualité, chers amis auditeurs, et vous le savez, aujourd'hui au sommaire de cette émission, eh bien au menu, nous allons accueillir celui qui produit et qui cartonne dans les productions de films. On parle des 7 pas, les 7 pas justement au ski, puisque ça fait l'actualité. Vous savez, figurez-vous, quand un buzz TikTok encourage des débordements un peu partout dans les cinémas. Là, ils sont débordés, les cinémas. Ils sont obligés et contraints d'arrêter quelques séances. On va en parler avec le producteur, parce qu'il y a un député LFI qui s'appelle Sébastien Rome, qui justement a dit, c'est de la faute au producteur si ça se passe comme ça dans les cinémas. Non mais monsieur le député, franchement, faut arrêter de déconner. Allez, clochette, faut... Depuis quand c'est la faute aux producteurs? C'est la faute à tout simplement ces gamins qui ont décidé de désorganiser tout cela. Allez, au sommaire de cette émission, nous allons parler avec les débatteurs influenceurs, tout simplement de ce remaniement gouvernemental. Il se précise de plus en plus, chers amis. Et oui, le président de la République va nommer un tout nouveau Premier ministre, paraît-il. Et comment il Elisabeth Borne est sur un siège éjectable. Immigration, nous en parlerons aussi, puisque les Européens, eh bien, ils s'accordent pour mieux gérer l'arrivée des immigrants, puisque, évidemment, sachez-le que 2024 risque d'être tendu. Des maires sanctionnent de plus en plus des familles de délinquants. Et ça fait polémique, on en parlera. L'assassinat d'un puissant chef du Hamas à Beyrouth, eh bien, il fait craindre d'une extension du conflit. Tout le monde craint que ça risque de s'embraser et que le Liban, évidemment, menace d'entrer en guerre et que ça risque de coûter cher tout cela à Israël. On en parlera tout à l'heure avec les débatteurs ici même sur ce plateau. Et puis, vous le savez, sans oublier les auditeurs. Les auditeurs, ils sont très très nombreux et je vous en remercie infiniment. Vous savez que c'est toujours un bonheur de venir vous accompagner. 01 53 48 3000. Au standard, vous êtes prioritaire. Vous nous appelez et vous passez en direct. 01 53 48 3000. Notamment sur le sujet, les maires, M-A-I-R-E, les maires de ville, qui sanctionnent des familles de délinquants. Figurez-vous que ça passe pas du tout auprès de certaines familles. Eh ben, on en parlera et je vais vous solliciter tout à l'heure. Allez, on va parler des 7 pas tout de suite avec notre interview. Et il est avec nous, justement, le producteur. C'est parti.
Les informés. L'interview.
Jean Rachid, bonjour, vous êtes le producteur de 7 pas au ski. Comment ça va, Jean Rachid? On se connaît très bien, donc je vais vous souhaiter une excellente année. Bonsoir, Jean Rachid.
Comment ça va, Adil? Ça va bien?
Très, très bien. Bonne année.
Bonne année à Beurre FM, bonne année à tout le monde et plein de bonnes choses pour toi et à ton émission.
Merci infiniment, mon cher Jean Rachid. C'est très touchant venant de votre part. Jean Rachid, vous êtes producteur de Grand Corps Malade, producteur évidemment auprès de certains humoristes, producteur aussi de films, que de succès. Et je vous souhaite encore plus de succès pour 2024, vraiment, parce que vous le méritez. Et d'ailleurs, je annonce à nos auditeurs qu'on fera une émission spéciale dans les quartiers, dans les informés des quartiers, avec Jean Rachid. Ce sera carte blanche pour lui et on le mettra à l'honneur. Ben, vous
merci,
êtes d'accord?
Merci. Ah, vas-y. Quand tu veux. On va noter la date. On devait le faire avant l'été. Oui. Mais la promise cette année en 2024, on l'a fait.
On l'a fait, absolument, et c'est noté. Les 7 pas au ski. Alors là, vous rencontrez un vrai carton au cinéma. Vous pulvérisez tout le monde d'ailleurs, y compris Roche Dizem qui vient de sortir, y compris. Enfin bref, là, vous pulvérisez tout le monde. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça provoque chez vous, évidemment, en tant que producteur?
Déjà, je suis content parce que c'est un petit film. Et il y avait beaucoup d'inconnus dans le 1. Le 2 démarre bien, il est fort. Et je suis très fier pour les frères Bouguerraba, parce que les deux réalisateurs, c'est les deux frères. Et pour l'acteur principal qui est Hichem et toute sa bande, on est très content pour toute l'équipe des SECPA. Et puis l'année commence bien en 2024. Voilà, on est super content.
Vous allez le fêter?
Là, on va le fêter. On va essayer d'arriver au million et le fêter tous ensemble.
Jean Rachid, justement, il y a un buzz sur TikTok. Vous savez quoi? Ça fait des ravages. Les 7 pas au ski, tout le monde en parle. Tous les gamins, franchement, je vous le dis, j'ai regardé. Moi, cet après-midi, je me suis amusé à regarder. Eh bien, ça fait un véritable buzz. Et puis, surtout, le TikTok, il y a certains qui encouragent des débordements dans les salles de cinéma. Et figurez-vous que les dirigeants de salles de cinéma sont contraints d'arrêter le film. Vous dites quoi, vous, monsieur le producteur? Parce que figurez-vous que cet après-midi, il y a un député qui était sur un plateau de télévision de LFI, Monsieur Sébastien Rome, qui disait, eh ben, c'est la faute au producteur. Heureusement qu'il a été rattrapé par les journalistes. Il lui dit, mais pourquoi le producteur? Le producteur, il n'a rien à voir dedans. Et donc, il a essayé de se rattraper. Vous répondez quoi, vous, monsieur le producteur, justement, Jean Rachid?
Je vais lui dire, il y a eu des... c'est vrai qu'il y a eu un petit peu des débordements, mais c'était au début, parce qu'on avait peu de copies. Il y a eu l'effet phénomène, tout le monde y est allé. Et le problème, c'est qu'on a, là, c'est pas le problème, ce qui est positif, c'est qu'on a rajouté plusieurs copies. Et maintenant, c'est cool. Et puis, il y a aussi l'effet de quelques... les réseaux sociaux ont amplifié le phénomène aussi.
C'est
pas représentatif. Et là, franchement, c'est pas représentatif de l'ambiance dans les salles où le film est diffusé et ça se passe très bien. Ouais. C'est reparti, c'est fort. C'est dans les débuts.
Bah oui, parce qu'il y a un franc succès, hein, plus de 150 000 entrées hein, déjà, hein, en peu de temps.
Hein. Non, non, en un jour.
Là, non, mais je parle en un jour, hein, je parle en un jour, moi. Je parle du premier jour. Hein.
Ouais.
Je parle de 150 000 entrées en peu de temps, c'est-à-dire en premier jour. Hein.
Ouais, là on a 600 000 entrées la première semaine.
Oui.
Bah après on est victime du succès. Hein. Bah on a augmenté les copies, tout se passe bien. C'est vrai qu'il y a eu des quelques folies au début, la semaine dernière quand le film est sorti. Parce que voilà, je te l'ai expliqué, peu de salles, les gens voulaient rentrer, les petits jeunes étaient contents d'aller voir le film. Ils sont partis en masse. Et c'est vrai qu'il y a eu un truc TikTok, mais ça. C'est dommage, mais maintenant ça se passe bien et on est super content.
Ce que je propose pour nos auditeurs, Jean Rachid, vous le producteur, justement, c'est d'écouter un extrait de la bande-annonce Les Secpa au ski. On écoute.
L'année du bac, c'est l'année
Ferme
ta gueule. C'est la dernière fois que tu m'interromps, t'as compris? Sinon, je viens chez toi, je séduis ta mère et je te fais des petits frères.
Ça fait 60 ans que le lycée s'affronte dans une Olympiade.
Nous sommes la risée de tout le monde.
Mais pourquoi on n'appelle pas les Secpa?
C'est les Secpa dont on parle.
Qui conduit?
Il n'y a pas de champion de ski qui vient de... Où est-ce que je veux dire?
Faites en sorte qu'il soit là dès demain.
C'est vraiment ski?
Je suis piou-piou, je vais passer ma première étoile.
Ouais, donc tu sais pas skier.
La piste noire,
la voici.
Ah, moi j'y vais pas, c'est trop.
Oh, moi j'y vais, les gars.
T'es sûr que tu veux y aller? Il y a des oiseaux qui volent en dessous.
Wouh! Il doit se régaler, hein.
Ah, le style, il est mort, là.
Le patinage, c'est cette flamme. Moi, je peux t'aider. Allez, Michel, suis-moi.
C'est Hichem, par contre, Hichem.
Et Michel, ça sonne mieux.
T'as déjà dit que t'avais la même voix que Didier Deschamps?
T'étais en chaleur. T'es encore en très bredouille.
Non?
Tu dors pas ici?
Comment ça, je dors pas ici?
Une femme, il est multiple. C'est ta mère, c'est ta sœur, c'est ta meilleure amie. Pourquoi tu crois que je suis encore avec Edouard?
Je sais pas, pour les papiers.
Quoi,
c'est pas ça?
Avancez pour
les plus grands de ce monde sont des Secpa. Mark Zuckerberg et Bill Gates, deux gros Secpa. Tout ça pour vous dire que moi aussi, je suis un Secpa.
Astral numéro 10!
Formidable, les copains!
On est foutu.
Mais c'est bon, monsieur, je sens même plus mes pieds.
Ah, mais nous, on les sent, frérot. On les sent très bien, même.
Non, mais franchement, Jean-Rachid, vous avez dû passer du beau temps en tournage, là. Tout le monde est Secpa, tout le monde... Mais c'est génial.
Franchement, l'équipe est incroyable. C'est pour ça que là, j'aimerais parler et être positif et parler du film et du succès. Le plus important pour moi, c'est le succès là qui et puis on est en train de tout ce qu'il fait et puis c'est important pour tous ceux qui ont bossé dessus, tout,
ouais.
Tout le monde est content là, franchement, l'année elle commence bien pour nous en 2024.
Elle commence bien, Jean-Rachid, elle commence bien l'année justement pour vous. Est-ce que vous prévoyez d'autres séries de Secpa justement, parce qu'il y a eu le 1, maintenant le 2. Est-ce que vous en prévoyez deux, une série pour 2024-2025, cher Jean-Rachid?
On va attaquer le tournage de Sous Écrou. C'est la même équipe des Secpa, là. Les mêmes réalisateurs, les mêmes acteurs. Et on va faire tiré de la série Sous Écrou.
Ah, excellent. Ça, c'est une nouvelle que vous nous annoncez en direct dans Les Informés.
En direct.
Effectivement. Donc vous allez...
On est super content.
Vous êtes super content. Vous avez d'autres projets, les Grand Corps Malade, là, qui lui aussi connaît un autre succès, hein, un franc succès, Grand Corps Malade, encore une fois.
Eh bien là, on a la tournée des Zéniths. Qui démarre, l'album marche bien, de Grand Corps Malade, et on sort le film Monsieur Aznavour en 2024, réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir.
Excellent.
Pour la vie de, sur la vie de Charles Aznavour, joué par Tahar Rahim.
Par Tahar Rahim, le grand Tahar Rahim, effectivement.
Le grand Tahar Rahim, l'immense.
L'immense, exact, ouais, parce que c'est un acteur impressionnant, Tahar Rahim. Dites-moi, Jean-Rachid, donc vous nous annoncez tout ça, autant dire que votre agenda est comblé.
Ouais, on est bien, on est dans le travail, on est super content, on est dans le travail. Et là, aujourd'hui, franchement, je suis tellement content pour toute l'équipe des SECPA. Vraiment. Non, mais vraiment. Et puis, tous ceux qui ont travaillé dessus, on réalise et on est content.
Bah, bravo à vous, d'abord. Félicitations pour le succès.
Et tout est réglé dans les cinémas. Tout va bien.
Tout va bien. Qu'est-ce que vous dites justement comme conseil à ces gamins qui parfois veulent perturber un peu? Qu'est-ce que vous leur... Je sais que vous aimez donner des conseils aux gamins. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire s'ils vous écoutent aujourd'hui?
Bon, à mon avis, le conseil, non, c'est d'aller voir le film tranquillement en famille et il y a un cinéma pour eux et kiffer les gamins et rester tranquille, voilà.
Exactement, effectivement. En tout cas, je voulais vous féliciter, Jean-Rachid, parce qu'on se connaît bien, nous. Je voulais vous féliciter. Bravo pour vous, évidemment, pour le succès de SECPA au ski. Et puis, bravo à toute à votre équipe. Et puis,
en tout cas, bravo, on vient de la même ville.
Exactement.
Tu étais dans ma classe, en plus, à
Nice. Exactement, c'est ça. On était dans la même classe et dans le même collège. Et oui.
Et je vois
le succès de notre frère Jean-Rachid. Et moi, vous savez quoi? C'est une fierté.
Et toi, t'es allé en quatrième, moi j'ai arrêté en cinquième, et j'ai fini en SECPA.
Regardez, vous avez fini en SECPA. Attendez, vous avez fini en SECPA, mais en même temps, regardez, je vous vois, mais bon, on se connaît très bien, mais je dois reconnaître, c'est quoi l'arrivée? L'arrivée, c'est que aujourd'hui, vous avez une belle succès, sorry. Voilà. Et qu'à l'arrivée aussi, vous êtes une belle fierté pour tous ces modèles, justement, ces gamins.
Merci. Et je vais dire, je suis fier d'avoir été en SECPA, voilà, à l'époque ça s'appelait pas SECPA, j'ai fait 3/5, c'était un peu la CPPN où je l'ai frôlé, mais je suis fier, bien sûr, on a de l'espoir, le travail, et puis on va continuer à faire des belles choses.
Vous savez quoi,
encore.
Jean-Rachid, tu sais quoi, le plus important, c'est pas SECPA, c'est PPN, 4e, 3e, etc. C'est ce qu'on entame dans son parcours. C'est l'envie,
exactement.
C'est le rêve qui nous anime, ce qu'on a envie d'incarner, ce qu'on a envie de faire de notre vie. Et c'est ça qui est beau, Jean-Rachid. Et ce que tu as fait, en tout cas, de ta carrière, c'est ça qu'il faut regarder. C'est le parcours que tu as traversé, le cheminement, et puis évidemment, pour aller jusqu'au bout de tes rêves. C'est ça le plus important. Qu'on ait fait ces PPN ou 4e, ou l'université, ou que sais-je. J'en sais rien. Le plus important, c'est d'être animé par ses rêves. Voilà.
Non, le plus important, Adil, c'est d'avoir plein de projets. T'échoues pas, il faut avoir des projets. Si tu veux continuer à avoir cette petite vie professionnelle, avoir des projets.
Exact.
Si ça marche pas, un jour ça va marcher.
Et c'est ça le plus important pour moi.
On continue. C'est là le plus important.
L'échec. Ouais, absolument.
Des projets. Créer, faire plein de choses. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Si tu y arrives, tant mieux. Et à un moment, ça va en passer.
Eh ben, on restera sur cette belle note, et une note positive, justement, mon cher Jean-Rachid. En tout cas, bravo. Allez. Moi, je suis fier de toi, tu le sais, hein, j'ai pas besoin de te le dire.
Je sais, moi aussi, je suis fier de toi.
Ah ben, je te le dis.
Et,
hein.
Et les jeunes, et continuez à aller en salle. Franchement, continuez à aller en salle, et allez voir les SECPA, et allez voir d'autres films. Et c'est important d'aller au cinéma en ce moment.
Exactement. Allez-y, SECPA au ski, c'est pas mal, si vous avez envie, évidemment, de passer un bon moment. Jean-Rachid, merci infiniment et beau succès encore pour 2024.
Merci
et au plaisir. On aura l'occasion de faire gagner, tiens, une promesse que vous nous tenez. Je vais vous lancer un truc. Vous ferez gagner des places au Zénith pour Grand Corps Malade à nos auditeurs. Vous ferez bientôt.
C'est fait. Mais tu l'organises, hein. Il y a pas de
problème. Je l'organise et on fait gagner ça. À bientôt, okay. Jean-Rachid.
Les trois premiers appels, je leur offre des places. Allez.
Absolument, on organisera ça à l'antenne en direct, effectivement.
Allez, on fera ça.
Je t'embrasse, Jean-Rachid, et bravo encore. 19h13, le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Magnifique, hein, quand même, hein, quand on entend ça. C'est une belle success story, quand même. Hein.
Ouais, mais.
Philippe Ladjiboyeki, bonsoir.
Bonsoir, Azil, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Tous mes voeux pour cette nouvelle
bonne
année. Tous mes voeux.
Bonne année. C'est beau, hein, ce qu'il dit Jean-Rachid.
C'est magnifique. Bah, c'est beau, mais faut voir le parcours de Jean-Rachid, qui est un ancien boxeur aussi. Mm-hmm. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Nelson Mandela disait l'échec n'est que le brouillon de la réussite. Et donc tu tombes, mais tu te relèves. D'ailleurs, Jirogo Kano, le fondateur du judo, disait je ne juge pas une personne au nombre de fois qu'il tombe, au nombre de fois qu'il se relève. Et donc quel que soit votre parcours, et c'est vrai que moi j'ai souvent envie de le dire, je suis bac -3. Steve Jobs n'a jamais eu le bac, Mark Zuckerberg non plus. Comment il s'appelle Microsoft?
C'est bac-20 que t'as.
Microsoft, c'était Bill Gates. Bill Gates non plus. Ouais. Mais après, voilà, c'est la détermination. Et puis, c'est aussi les rencontres. Faut pas se le cacher. Mais tu fais les rencontres que tu produis.
Ouais, exactement.
On sème que ce qu'on récolte.
Guillaume Dessouy, bonsoir. Bonne année.
Bonsoir, Adil. Bonne année. Tous mes voeux aux auditeurs de Beurre FM. Et effectivement, une très belle façon de commencer l'année avec ce succès de Secpa et les phrases que vous avez prononcées. C'est des bons vœux pour 2024, ça donne du courage, ça en puissante. C'est formidable.
Exactement, c'est formidable. Jimmy Dalidou, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Comment ça va?
Écoutez, bonne année. Ça va. Bonne année à tous, bonne année à nos auditrices et auditeurs.
Allez, on va marquer la première pause et on se retrouve tout de suite après. Il y a Ménadou Chénier aussi qui nous a annoncé son petit retard. 01 53 48 3000 si vous voulez réagir, si vous voulez intervenir. Vous nous appelez de toute la France et partout d'ailleurs, notamment sur les maires de ville qui, eux, ont décidé de sanctionner les familles de délinquants. Bon, est-ce qu'il faut passer par cela? Justement, on en parle et on attend vos appels au 01 53 48 3000. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et je reçois justement dans le face-à-face d'abord un, les auditeurs 01 53 48 3000, et puis surtout Ménadou Chénier, bonsoir, il vient d'arriver.
Bonsoir.
Coincé
Adil.
Dans les bouchons, n'est-ce pas? Peut-être, ou peut-être dans les transports en commun.
Dans les bouchons.
Dans les bouchons, voilà, d'accord. Bonne année, mon cher ami.
Merci à vous aussi, à tous nos auditeurs également.
Voilà, prenez le temps de prendre votre café, appréciez votre chocolat.
Je suis très bien reçu.
On vous met bien ici. Hein,
on a été soudoyé avec des bonbons Haribo.
Soudoyé, non, mais en tout cas, l'hospitalité de la bonne année.
Rémunéré, peut-être.
Rémunéré, ça c'est
rémunéré.
Je ne peux pas dire soudoyé, plutôt le rémunéré. C'est plus chic, c'est plus classe.
C'est une bonne valeur d'échange.
Le président argentin, pour l'anecdote, a autorisé, le nouveau président argentin, a autorisé les entreprises à rémunérer leurs employés avec des aliments, de la viande, de la crypto-monnaie, donc tout ce qui...
Ah oui, voilà. Avant de trafiquer leurs organes.
C'est pas forcément un... Bon, c'est pas le sujet.
Ici, c'est des bonbons.
Allez, tout de suite, vous savez quoi? Jingle, les auditeurs ont la parole, c'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Avant de vous donner la parole, parce que évidemment la tension est à son paroxysme, je parle évidemment du conflit israélo-palestine. Jérôme de Saint-Ouen, bonsoir Jérôme et bonne année.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, vous avez l'air calme, tranquille, serein. Bonne année, Jérôme.
Merci, c'est gentil. Bonne année, merveilleux.
On vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez parler? Des maires qui sanctionnent les familles de délinquants?
Et ça ne vous dérange pas? Vous prenez quelqu'un d'autre avant moi, je me gare, s'il vous plaît.
Bien sûr, garez-vous. Garez-vous, c'est pas mal, c'est pas mal.
C'est bien, c'est la première fois.
J'adore.
Il est prudent, mais c'est bien.
Moi, j'aime. Je préfère quelqu'un qui me dise oui, voilà, écoutez, je préfère me garer plutôt que de me retrouver.
Le meilleur auditorat de France.
Ouais, c'est le premier auditeur, évidemment. Messieurs, tout de suite, je voudrais parler de vous savez quoi, de l'assassinat d'un puissant chef du Hamas, le numéro 2, c'est pas rien quand même. Hein. Et vous savez quoi, tout simplement, Nasrallah qualifie le meurtre du numéro 2 d'agression israélienne flagrante. Le Liban, lui, il cumule plein de choses. Il cumule une fragilité économique, il cumule une fragilité politique, il cumule maintenant évidemment une escalade potentiellement dévastatrice avec Israël. Que peut-on, évidemment, à quoi peut-on s'attendre? On fait un tour de table. Guillaume Dessouy, l'élu de Villejuif.
Bah, moi, en tant que...
Viens dans le micro, tournez-le. Hop, voilà.
En tant que pacifiste...
Non, pas du tout, vers vous.
Comme ça,
vous êtes pas...
On va tourner, quoi.
Allez-y. Voilà, très bien.
En tant que pacifiste, membre du mouvement de la paix, je suis forcément très inquiet, d'autant qu'il y a des attentats terroristes en Iran qui arrivent dans la même séquence. Et tout ça, c'est des contexte très interdépendant où les tensions se répondent et où les discours montent d'un cran à chaque fois. Faut pas oublier que quelques heures après cet assassinat, le ministre de la Défense israélien a des paroles complètement délirantes où il parle de la moitié de la population de Gaza qui devrait être éliminée pour enfin avoir les capacités de vivre en paix. On est dans des logiques qui sont innommables, effarantes et qui augurent d'une année 2024 où il va falloir avoir les moyens de ses ambitions. Le président a mis la situation dans ses voeux. Il va falloir qu'il change de braquet.
Jimmy Dalidou, effectivement, c'est inquiétant.
Mais écoutez, plus qu'inquiétant, d'abord, on est le 3 janvier. C'est tout de même bizarre que des explosions en Iran se produisent deux jours après que l'Iran ait officiellement intégré le bloc du Nouveau Monde, c'est-à-dire les BRICS, puisque l'Iran a officiellement intégré les BRICS depuis le 1er janvier 2024. Il y a pas de lien de causalité, je peux pas l'affirmer, il y a pas assez d'éléments objectifs, j'ai pas assez d'éléments factuels pour l'affirmer, mais en tout cas, je me pose la question. C'est bizarre. Deux jours après, ça commence à péter. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Iran, pays ultra important pour plusieurs raisons. D'abord, on se rappellera que l'Iran est membre aussi de l'OPEP, organisation des pays exportateurs de pétrole, que Kepler, l'agence d'analyse Kepler, en octobre 2023, avait clairement dit que l'Iran était dans la production du pétrole, était passé devant l'Arabie Saoudite et qu'il était producteur de plus de 10% du pétrole de l'OPEP est produit par l'Iran. Et ce même pays intègre les BRICS. Donc ça attise la convoitise de certains pays impérialistes à l'Ouest qui veulent voir la zone s'autodétruire si elle fonctionne pas pour lui. L'impérialisme nord-américain notamment, et certains pays impérialistes organisés au niveau européen, notamment l'Allemagne et la France, et les Britanniques, veulent semer le chaos dans la zone, veulent semer la zizanie. Et pourquoi? Parce qu'il ne faut pas laisser le Moyen-Orient et toute cette zone.
Est-ce qu'on risque un embrasement, Jimmy Dalidou?
Oui, je pense
que c'est ça la question aujourd'hui. En fait, je veux bien tout entendre là. Mais la question qui s'oppose aujourd'hui, c'est l'embrasement.
Non, mais si vous voulez,
ça veut dire qu'en gros, comme dit le dit Guillaume de Souy, est-ce qu'on risque de rentrer dans une guerre qui risque de dépasser
tout le monde? D'abord, on a un conflit qui est le conflit israélo-palestinien. Moi, j'appelle ça plutôt un génocide, parce que ce qui se passe à Gaza, c'est clairement un génocide qui est organisé par les forces néo-fascistes du gouvernement israélien. Et on sait que ça risque de s'étendre. Parce que le Hezbollah libanais est organisé, il est organisé jusqu'en Iran.
Comme
le Liban est aligné sur l'Iran. Ça c'est mon avis. Je pense qu'effectivement le gouvernement de Monsieur Netanyahou est un gouvernement néo-fasciste encore une fois le Hezbollah est organisé un petit peu partout dans la zone. Pour l'instant. On verra ce qui va se produire. Pour l'instant, il n'a pas attaqué.
Bon, ça énerve.
Mais
ça énerve,
c'est un petit peu comme le chat qui tape un autre chat. Oui. À un moment, ça va se défendre.
Non, mais ce qui m'énerve,
c'est le mot néofasciste, c'est ça, non?
Je ne vais même pas dire qui m'énerve, mais en tout cas, qui m'interroge beaucoup, c'est toujours cette surenchère de termes. J'en avais parlé ici, d'ailleurs, juste lors de mon dernier passage, sur cette inflation sémantique et sémiotique. On sort des termes néofascistes.
C'est un élément factuel.
Non.
Ah non, si, c'est un élément factuel,
non, c'est
idéologique.
C'est pas un élément
factuel. Philippe Bourrier, c'est pas un élément factuel,
c'est un jugement personnel. Vous avez le droit, naturellement, tout le monde a le droit d'avoir ses opinions, mais non, c'est pas un élément factuel. Il faut arrêter de le présenter comme tel.
Donc massacrer dire, plus de 20 000 personnes indépendamment des règles de l'ONU, c'est dans l'ordre des choses. C'est normal, c'est naturel.
Et des enfants, et puis que j'envoie des vidéos, et puis que je fais des.
C'est pas une question de vidéos, c'est une question de.
Plutôt que de rentrer dans une espèce de piège. Non, mais puis aussi de petits pièges où on va commencer à sortir les chiffres, les machins, les images qui appellent plus à l'émotion qu'à la raison. Moi, je vais juste poser une question.
20, plus de 20 000 morts, ça fait laquelle... 20 morts, oui, évidemment.
Voilà, on continue le piège, mais sauf que je ne tombe pas dedans. Donc, du coup, je vais continuer de poser ma question.
Mais en même temps, il parle de
réalité. Plus de 20 000 morts.
C'est-à-dire que factuellement, on parle de plus de 25 000 morts. D'accord.
Il y a un exercice.
Là, il n'invente pas pour le coup.
Il y a un exercice que je me refuse à faire avec tout conflit armé.
Tu condamnes événement mort ou pas?
On peut parler du Darfour, on peut parler de tous les conflits armés, de ces. Dernier siècle même, c'est faire de la compta avec les morts. Et ça, je trouve, et en particulier là, depuis le 7 octobre, mais on le faisait déjà avant.
On l'avait fait en Afghanistan,
on l'avait fait en Ukraine, on l'a fait partout. Je ne fais pas de compta avec les morts des guerres. Dès le premier mort, c'est trop, peu importe de quel côté de la frontière. Point. Donc je vais terminer par une question et j'invite tout le monde à se poser la question. Aujourd'hui, dans ce contexte-là, moi je cherche encore à savoir qui travaille pour la paix. C'est-à-dire qui sont les gens aujourd'hui du camp de la paix et qui travaille pour que ça s'arrête.
Mais il est pas
on a un pacifiste, on aimerait le patron sur le front, qui
on
est mobilisé,
aimerait que le président
dans
un camp.
Non, mais bien sûr, et je souscris à ce
message. Monsieur, les peuples travaillent pour la paix, mais
simplement aujourd'hui, dans les décideurs, dans les décisionnaires politiques, militaires, diplomatiques, qui travaillent à la paix. Moi, je n'ai pas identifié encore dans ce théâtre qui est chargé d'aller vers une désescalade.
Une désescalade.
Donc tu es en train de nier les différents fautes de l'ONU. Donc
il y a des fautes
qui ont été
L'ONU a fait son
négation
rôle.
De la République.
L'ONU a
c'est vrai que l'ONU a fait son rôle. Ils ont appelé à la paix.
Et monsieur Guterres a utilisé l'article 99 de manière inédite. Il s'est passé des choses très fortes.
Moi, j'aimerais.
Laissons-le.
J'en profite qu'on est sur Beurre FM pour avoir une pensée quand même. Une pensée pour les otages. Et quand on parlait de qui œuvre pour la paix, moi j'aimerais rappeler ici que mon ami, mon frère, Michael Sherman de Charenton, œuvre énormément avec les potes du collectif du 7 octobre, avec les potes de l'UIGF, pour ne pas qu'on oublie les otages, parce que ce sont des civils. De part et d'autre, hein. Jimmy, je suis pas là pour essayer de faire une
prisonnier de guerre. Prisonnier de guerre.
Là, c'est pas des prisonniers de guerre.
Ce sont
des
prisonniers de guerre des deux côtés.
Civils, qui israéliens,
totalement condamnables
de guerre.
Mais ce sont des prisonniers de guerre.
Il y a eu des attentats.
Vous parlez de terre.
Par une organisation terroriste.
Dans toutes les guerres, même dans les tribus indiennes, il y a toujours eu malheureusement des prisonniers de guerre.
Deux nations qui s'affrontent, pas des otages. Là aujourd'hui, on a des otages, y compris des otages français. Je voudrais qu'on ait quand même une minute qu'on pense à nos 41 ressortissants français qui ont été assassinés par des terroristes du Hamas qui prennent aussi en otage les civils
de
Gaza et les civils palestiniens. Alors, la question qui a été
posée... Donc, t'as oublié ce qui s'était passé depuis 1948 et la
Nakba. La question qui a été posée par rapport au Liban. Le message est clair. Israël a envoyé un message où que vous soyez dans le monde.
Le ministre
tous celles et tous ceux qui ont participé de près ou de loin au massacre et au pogrom du 7 octobre, vous ne serez jamais en sécurité.
Là, mais l'embrasement.
Non mais là tu es en train de cibler
ça vient de tomber. Philippe Najib Ouayaki, Nasrallah justement qualifie le meurtre de Saleh Alamouaouri d'agression israélienne flagrante. Qu'est-ce que ça sous-entend évidemment? Beaucoup de choses.
Toute action entraîne une réaction. Israël a été bien clair dès le départ. Nous éradiquerons le Hamas. Quand je dis nous, je parle pas pour les.
Mais c'est faux ce que tu dis. Mais non, tu sais bien qu'ils veulent.
Laissez-moi finir.
Le gouvernement israélien.
C'est impossible d'avoir un débat sensé. Ah oui. Je suis en train de dire que le gouvernement israélien, l'armée israélienne, les services de renseignement et les services d'intervention israéliens ont été bien clairs. Ils iront chercher partout. Et ça peut, effectivement.
Donc pour toi, les 8000 enfants morts en Palestine, il fallait aussi les éliminer parce que là,
le Liban risque. Le Hezbollah au Liban
risque de réagir, mais il n'a pas intérêt de réagir. Et si on regarde bien depuis
le départ. Quand on voit son communiqué, si.
Non, ouais, son communiqué, il le fait
comme ça. Mais ça y menace, mon cher Philippe. Je vous ai dit, Nasrallah, il vient de parler il y a peu de temps, là.
Non, mais écoutez,
ce que tu dis là, c'est complètement contradictoire avec ce que tu disais au départ.
Il menace, je vous le dis.
C'est complètement contradictoire parce que quand on demande.
Vous vous adressez à Philippe.
Oui, à Philippe. Allez. Parce qu'on demande qui œuvre pour la paix sur place. Je veux rappeler qu'il y a le Croissant Rouge International, qu'il y a MSF, qu'il y a l'ONU, qu'il y a des humanitaires qui ne cessent de dire.
Mais non, mais je parle de
qui ne cessent de dire que le premier ennemi de ces otages.
Je vous le dis, les amis. Moi, je vous le dis clairement, comme je le pense.
C'est l'opération israélienne qui est en train de les tuer sur place.
Moi, je vous le dis clairement, messieurs.
Non,
on va faire un tour de table. Ouais. Je vous le dis clairement, comme je le pense. La situation est préoccupante.
Il faut qu'on
entendons-nous bien. Elle est à la fois préoccupante et vraiment, je pense très fort, je pense qu'elle risque d'y avoir un embrasement.
En tout cas, la société civile travaille.
Attention, il y a deux choses importantes.
Et je voudrais entendre les dirigeants de la
La première, effectivement, c'est qu'il est urgent de rétablir la paix, mais le problème qui se pose, il y a deux choses. La première, c'est qu'encore une fois, il y a eu des votes. Je vous rappellerai qu'il y a eu plusieurs votes, il y a eu plusieurs tentatives de vote à l'ONU qui ont clairement appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza parce que et je vous rappellerai qu'il y a même eu des comités organisés avec des membres des experts de l'ONU qui ont clairement utilisé le terme de génocide.
Et c'est parce que vous avez demandé la démission du secrétaire général de l'ONU en réaction à cela.
Je finis là-dessus. Un homme qui a levé la main, un homme parce qu'il représente les intérêts de l'impérialisme nord-américain, il a plombé tout le monde et la guerre est continuée. Ça c'est inadmissible. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Deuxième chose, monsieur Bourriacci, nous parle du 7 octobre comme si c'était l'unique cause. Mais monsieur, vous oubliez 1948, vous oubliez la Nakba, vous oubliez mais si tu l'oublies, tu oublies le dépeçage du Moyen-Orient à l'époque qui était Messi. Alors, après l'Empire Ottoman qui était organisé par l'impérialisme britannique et français à l'époque pour installer un certain peuple là-bas qui se sont ensuite étendus indépendamment des velléités du peuple palestinien. Ça, vous l'oubliez très vite, monsieur.
Mon parcours de militant pour la paix et pour la reconnaissance d'un État palestinien. Lors de notre dernier conseil municipal, il y a eu un vœu pour demander un cessez-le-feu. J'ai vilipendé la majorité en disant vous auriez dû nous intégrer à ce vœu-là. Parce que il faut qu'on aille plus loin. Il faut que dans chaque ville, nous reconnaissions officiellement l'État de Palestine pour que ça monte un cran
au-dessus. Vous savez quoi ?
Dans notre ville,
s'il vous plaît, 19h35, on a beaucoup d'appels, et je vais tenter évidemment de les accueillir.
Il a fini de se dire.
Sophia de Saint-Denis, Bilal tient juste après, dans l'ordre. Et puis tous les autres, 0153483000, on marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes. Restez avec nous, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
À 19h38, c'est précisément ce que vous venez de le retrouver dans les informés avec Guillaume de Souilly, avec Jimmy Dalidou, pardon, avec Ménadou Chénir et enfin Philippe Bouriaki qui sont avec nous. Et je vais accueillir tout de suite, vous savez quoi, pour parler de ce sujet brûlant, Sophia de Saint-Denis. Bonsoir Sophia, bonne année.
Bonsoir, meilleurs vœux à tout le monde, à toute l'équipe.
Merci, moi aussi.
Merci Sophia.
On vous écoute, Sophia. Oui,
j'ai déjà appelé plusieurs fois sur pas mal de thèmes, mais aujourd'hui, par rapport à la conflit israélo-palestinien, moi, j'ai été choquée d'un truc, c'est que je suis partie à Abu Dhabi pour une compétition mondiale dans le désert.
Ouais.
Et donc j'ai dormi à Abu Dhabi, je me suis baladée, j'ai rien vu, il n'y avait rien de marquant pour la Palestine. C'était surprenant parce que je vois dans le monde entier des pays qui ne sont pas musulmans bougent, comme la France, les États-Unis, et Abu Dhabi, rien du tout. Personne n'en parle. C'est incroyable, mais vrai.
Ah, personne n'en parle, ça veut dire vraiment, c'est pas un sujet avec lequel on échange les uns et les autres, non, même pas.
Ah non, même pas, j'assure. Hein, je suis rentrée dans un centre commercial où il y avait un panier, mais alors un petit panier pour poser des vêtements pour la Palestine.
Bon, ça vous a choqué. Ça vous a surpris.
Dans la compétition sportive, il y avait des Américains, des Australiens qui avaient des foulards avec écrit Palestine Free. Mais dans la compétition en elle-même, mais dans les hôtels, dans les centres-villes, il n'y a rien. C'est malheureux que les pays musulmans n'interviennent pas. Je suis surprise par tout ce qui se passe et ce n'est pas normal.
Alors attendez, Ménadou Chénir souhaite vous répondre justement. Ménadou Chénir.
Plus qu'une réponse, c'est un élément de réflexion. Ce qui se passe, c'est que rappeler en tout cas que le Hamas est une organisation frériste et qui est pour le coup pas forcément très proche des régimes, notamment émiratis. Donc, quelque part, c'est aussi des pays qui reposent beaucoup sur l'expatriation. Donc, peut-être que pour préserver leur propre paix sociale, ils limitent peut-être les affichages de soutien. Ça ne veut pas dire, je pense. Souvent, les soutiens affichés ne sont pas proportionnels au soutien réel. Je parle notamment sur le plan financier ou diplomatique, ou le Qatar ou autre. Donc, effectivement, j'apprends, hein, et merci pour l'information, qu'ils n'affichent pas forcément ça dans les rues, dans les lieux publics. Je ne pense pas qu'ils soient inactifs sur le plan diplomatique, bien au contraire.
Guillaume de Souilly souhaite aussi échanger. Guillaume de Souilly aussi souhaite échanger avec vous, Sophia. Guillaume de Souilly.
Oui, moi je voulais revenir sur ce que vous venez de dire, Sophia, à propos des athlètes. Savoir que les athlètes américains, australiens se positionnent sur ces questions-là dans des compétitions à l'étranger, c'est quand même la marque que la société civile réclame de l'intelligence, réclame la paix. Et c'est une belle nouvelle aussi d'un autre point de vue.
Merci Sophia pour de nous avoir livré évidemment votre témoignage.
Merci beaucoup et encore meilleurs vœux à toute l'équipe et à tout le monde. Merci.
Tous mes vœux les plus sincères, absolument Sophia, restez fidèle. Je vais accueillir Bilal du Val d'Oise et ensuite après on va passer au second sujet. Bilal, bonsoir Bilal.
Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue, bonne année.
Merci également, meilleurs vœux.
On vous écoute mon cher Bilal.
Bon ben écoutez, moi j'ai beaucoup de choses à dire.
Allez-y, donc, c'est le lieu.
L'histoire de la Palestine me tient très à cœur.
Oui.
Moi ce qui me choque un peu, c'est la grille de lecture et d'analyse de l'Occident en général.
Oui.
C'est bien connu, ils sont très proches de, forcément d'Israël, du fait de la Shoah, hein, c'est quelque chose d'évident. Tout ça soutenu par la masse média, en fait, hein, les médias américains, européens, qui participent à la propagande d'Israël, c'est le cas de le dire, hein, parce que c'est rabâché le matin, midi et soir. Remettre en question le droit des Palestiniens à se défendre, parce que pour moi c'est tout à fait ça, c'est de la résistance palestinienne contre un occupant depuis 1948 qui opprime les Palestiniens, qui leur dénie le droit d'avoir un territoire. Ils ont tout fait pour saboter les espoirs de paix. Maintenant, on nous parle de frériste, frères musulmans, mais tout ça, c'est de la bêtise pour moi, sincèrement. Mmh. Tout ça, c'est pour vraiment dire, on n'a pas d'interlocuteur, on n'a pas de personne avec qui discuter pour faire la paix, mais ils ne veulent pas la paix. Mmh. Ni les Américains, ni les Israéliens, ni les Français. Mmh. Et ils veulent dominer, continuer à dominer un peuple, à les exproprier de leur terre. Ils sont de là-bas, ils ont tous leurs droits pour ce pays-là. Et donc moi, ça me choque énormément, ça me rend très triste.
Quelqu'un souhaite réagir?
Moi, je pensais que l'Occident...
Oui, oui. Bilal, ça fait réagir, justement. Bilal, s'il vous plaît, Bilal, on a bien compris, on a bien entendu, évidemment, ce que vous nous livrez là, en direct, dans les informés. Il y a Guillaume qui veut échanger avec vous. Ensuite, il y a Jimmy. Philippe, vous avez réclamé la parole. Philippe Bourek.
Oui, quand on dit qu'il n'y a pas d'interlocuteur, faut pas oublier qu'il y a M. Marbouti qui est en prison et qui est capable de structurer une société civile une optique de paix palestinienne où il y aurait une vraie capacité à dialoguer, et la vraie capacité à dialoguer elle existe aussi en Israël du côté d'une société civile très organisée avec des ONG qui aujourd'hui sont complètement minorées voire agressé par le pouvoir israélien, qui est effectivement plus que d'extrême droite, qui est suprématiste et qui a fait rentrer dans la constitution en 2018 le fait qu'Israël était un État théocratique. Donc on le reproche à l'Iran, hein, on le reproche pas à Israël, cette primauté du discours religieux qui efface la raison et qui efface les enjeux de société au profit de soi-disant valeurs, au profit de soi-disant caractéristiques qu'on retrouve maintenant aussi dans le discours de l'État français. On voit un président qui, dans ses vœux, s'axe sur la fierté et le réarmement. Tout ça, ça va dans le sens d'avoir des opinions chauffées à blanc, des gouvernement autoritaire et une société civile qui perd sa capacité à s'exprimer.
Je vais, avant de libérer Bilal du Val-d'Oise, Philippe Boyer, qui est très court, s'il vous plaît, parce qu'il faut que j'aimerais qu'on parle du remaniement. Rapidement, parce qu'il faut que j'avance, mon cher Bilal. Rapidement, d'un mot.
Non, mais deux secondes, vous permettez,
s'il vous plaît. Allez-y, deux mots.
Deux mots, tout à fait. Non, pour moi, tout ça, c'est une mascarade, sincèrement. Tout ça, pour moi, c'est vraiment une mascarade. Les Palestiniens ont été abandonnés à la fois par le monde arabe. On parlait de tout ça, Abu Dhabi.
Non, c'est pas les Palestiniens, c'est la paix, monsieur. C'est la paix.
Bon, merci, Bilal. Il y a Philippe qui va échanger. Il faut que j'avance, Bilal. Je suis désolé. C'est pas que je veux pas. Oui, allez, finissez vite, s'il vous plaît, vite.
Que ce soit les Émirats, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit le Maroc, ils ont tous abandonné les Palestiniens. Et le Hamas, en fait, l'action qu'ils ont fait le 7 octobre, c'était pour dire, on existe. Vous nous avez tous abandonnés. Vous nous avez tous abandonnés sans exception.
et il a fallu cette
c'est
action.
Pas vrai. On a fait du Hamas le 7 octobre, c'est un massacre qui est un
je peux pas entendre que Philippe. Le 7 octobre c'était une action. C'était non, c'est pas la résistance, c'est des actes terroristes, Bilal, dans un premier temps. Deuxième temps, je ne peux pas vous laisser dire que en Israël, personne ne voulait la paix. Je vous rappellerai que Yitzhak Rabin a tout fait pour avoir la paix et a été assassiné par un extrémiste religieux. Je vous rappellerai que même Ariel Sharon a commencé à démanteler les colonies en Cisjordanie et que la population israélienne à forte majorité était pour un mouvement de paix. D'ailleurs, celles et ceux qui ont été massacrés le 7 octobre, ça a été que des pacifistes et des gens qui voulaient la paix. Donc on peut pas laisser dire que tous les Israéliens ne veulent pas la paix. Maintenant, vous avez des extrémistes, et ça c'est une réalité. Vous avez des suprémacistes, et ça c'est une réalité, qui eux ne veulent pas la paix, mais d'un côté comme de l'autre.
Suprémacistes du côté israélien.
Faisons
du gouvernement israélien.
Il y a des suprémacistes israéliens, comme il y a des suprémacistes américains, comme il y a des suprémacistes français, comme il y a des suprémacistes allemands, comme il y a des suprémacistes dans les pays arabes.
Par rapport à ce qu'il a dit Bilal. Donc on peut, non, juste on pour dire, dire pour dire par rapport à
Jimmy,
tout à
Jimmy.
Fait d'accord à ce qu'a dit Bilal, le gouvernement israélien ne veut pas la paix pour la simple bonne raison que pour avoir la paix, il vous faut deux choses. Il faut apporter au peuple palestinien des conditions de vie minimum pour qu'ils puissent prendre en charge les questions politiques et prendre en charge leur existence. Et je vous rappellerai que c'est le gouvernement que tu défends, le gouvernement israélien, qui empêche l'arrivée de toutes les aides humanitaires. Même l'ONU a dit que les aides humanitaires peuvent arriver à Gaza d'une manière urgente et sans entrave.
C'est
eux qui organisent, même depuis l'Égypte, ils ont empêché l'arrivée des camions humanitaires. Ça, c'est ce qu'on appelle de la destruction d'un peuple. La destruction d'un peuple. Donc, puis là, la raison, c'est ils veulent organiser la destruction d'un peuple. C'est un génocide qui est organisé.
Attendez, laissez-le répondre. Philippe, vous répondez quoi? Et ensuite, Mena Douchenir, et on finira peut-être l'émission avec cette émission spéciale, finalement, avec ce qui se passe, évidemment, au Proche-Orient. Faut le reconnaître. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on n'aura pas traité les autres
sujets.
Mais la
dommage.
Situation, non, mais c'est dommage. La situation est préoccupante. Donc,
bien
on
sûr.
Prend le temps d'en parler.
Et je dis qu'aujourd'hui, en Israël et en Palestine, malheureusement, on n'a pas les bons interlocuteurs pour pouvoir arriver à une négociation de paix. C'est clair, net et précis. Et il ne peut pas y avoir de paix sans qu'il y a pas un état.
L'interlocuteur, c'est le peuple.
Alors,
monsieur.
S'il vous plaît. Mena Douchenir, ensuite Guillaume Dessouy, qui secoue la tête.
Puisqu'il est question de paix, s'il y a une chose où je rejoins Jimmy Dalidou, c'est que pour moi, l'initiative, l'étincelle, le catalyseur de la paix viendra des peuples. Des peuples. À la fois du peuple israélien et du peuple palestinien. Il ne faut pas oublier que le peuple israélien s'était mobilisé bien avant le 7 octobre contre la politique de Benjamin Netanyahou.
Et que c'était chaud pour lui.
Et en l'occurrence, il n'était pas en posture très confortable sur le plan politique au moins. Donc je pense qu'effectivement, les peuples sont les catalyseurs de la paix. Au peuple de se mobiliser et arriver à créer des conditions propices à l'installation d'une paix durable où chacun puisse vivre dignement d'un côté ou de l'autre de la frontière.
Guillaume Dessouy, avant de retrouver le Quoi de Neuf.
Oui, je dirais que ça va beaucoup plus loin parce que ce qui est en train d'être attaqué et la victime la plus grave de ces circonstances, c'est le droit international. On est dans la déconstruction des normes. On a beaucoup parlé de questions de dignité humaine dans ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza et qui s'est passé dans les kibbutz qui l'entourent. C'est cela, c'est la paix elle-même, c'est l'espoir de la paix pour l'ensemble de l'espèce humaine et la communauté internationale qui sont attaqués et déconstruits semaine après semaine par les discours des uns et des autres. Et c'est là où tous les peuples doivent se mobiliser.
Volontairement.
Beaucoup de peuples le font. Le peuple
Merci
américain
Guillaume.
Le fait.
Guillaume, 19h50.
Faisons-le.
19h50, on est dans les clous. C'est le Quoi de Neuf. C'est parti.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, comme chaque mercredi, vous savez, c'est avec El Professeur, le docteur Majid Sehoussine. Bonjour docteur, bonsoir, bonne année à vous, mon cher docteur.
Bonsoir Adil, bonne année à vous aussi.
Tous mes voeux les plus sincères, je vous lance dans votre billet, évidemment pour cette rentrée 2024, le premier billet, et tout simplement avec un angle qui est celui de 2024 en un tour du monde. On vous écoute.
Vous lisez dans mes pensées, c'est comme ça que je commence mon billet. Première chronique de l'année, et tout d'abord tous mes voeux aux auditeurs de Beurre FM, et à vous et à votre très honorable plateau. Oui. C'est vrai que ça ne coûte pas très cher de formuler des vœux et tout le monde fait semblant d'être content et de croire que nos invocations hypocrites vont changer quelque chose aux événements, mais soit on est très naïf, proche de trampoliner dans la bêtasserie de bas étage, soit on est doué d'une hypocrisie très urbaine, d'individus socialisés, proches de la perversité. Personnellement, je pense que cette seconde éventualité est la bonne. Un peu comme moi, quand voyez-vous, je fais la visite à l'hôpital à Noël, parce que vous voyez, en bon maghrébin, je fais toujours la visite à l'hôpital à Noël pour que mes camarades puissent cuver leur champagne. Après cette fête qui, tout de même, on doit s'en souvenir, ça fait pas si longtemps, avait vocation à célébrer le pauvre parmi les pauvres après le job. Voyez-vous, Adil, c'est ça le grand remplacement. Les mettre les calamines et au fourneau pendant que les autres s'amusent. Vous voyez, donc je disais, hypocrisie perverse, un peu comme quand je fais la visite à Noël à l'hôpital et que je rentre dans la chambre de ce pauvre cancéreux truffé de métastases jusqu'aux os et que je lui dis avec le sourire « Joyeux Noël
ouais. ». Hardcore quand même, comme clochette, dit clochette. Clochette, allez.
Bon. C'est vrai, Adil, vous me l'accorderez, il y a de quoi être optimiste en 2024. Ça a l'air de s'arranger depuis ce qu'on me dit à Gaza. Le problème palestinien va enfin être réglé, car plus de Palestiniens, plus de problèmes. C'est pas mal aussi du côté de l'Ukraine, où Poutine et Zelensky ont l'air d'être pour une fois d'accord sur la même longueur d'onde, puisqu'ils se promettent à tous les deux et en même temps de se faire de superbes feux d'artifice, tous les deux, et on remercie les Chinois d'avoir inventé la poudre. Mmh. Il n'y a pas que d'ailleurs, puisque l'obélix de Corée du Nord, Kim Jong-un, avec son sens de la prévoyance qu'il caractérise, nous demande de nous préparer à une possible guerre sans que l'on sache vraiment de quoi il parle vraiment. Peut-être veut-il aller prêter main forte aux militants de Trump pour envahir le Capitole en novembre 2024, s'il échoue une nouvelle fois, ce que j'espère secrètement. Ou alors, nous annonce-t-il l'invasion de Taïwan, puisque M. Ping, et non pas Pi, a dit le physicien grec, oui. nous a annoncé dans ses vœux sa volonté de réunifier la Chine et Taïwan, ce qui nous promet une belle partie de rigolade. Enfin, pour finir, enfin, une note d'optimisme. 2024, c'est les JO à Paris. Exact. Et mon plus grand espoir a peut-être une chance d'être satisfait, puisque la cérémonie d'ouverture se déroulera sur la Seine. Et c'est le secret espoir que Madame Hidalgo tombe dedans, y attrape le choléra et s'évanouit dans une immense garée.
Clochette. Bravo pour ce billet d'humeur de rentrée, justement. Merci infiniment, mon cher docteur El Professeur Majid Seoussin.
En forme.
Bravo. En forme, toujours en forme, toujours. Merci, docteur.
À votre service. Je vous remercie pour la cocaïne, Adil.
Wow. Double clochette. Double clochette. Voilà, double clochette. Vous allez vous rendre compte que.
Il va fracasser la porte.
Il est incroyable, hein. Il est incroyable, le docteur. Hein.
Il est incroyable.
Ah,
oui. Incroyable. Il n'y a qu'un médecin pour avoir un humour aussi malsain.
C'est ça, exactement. Oh. Ah, c'est pas mal, pas mal. Bienvenue.
Il y a du level.
Merci, Guillaume de Souy.
Merci Adil,
merci Jimmy Deledouce. Ouais, on a fait une émission spéciale consacrée évidemment au Moyen-Orient avec ce qui se passe en ce moment même du côté du Hezbollah. Merci Ménadou Chénir.
Merci Adil, merci à tous.
Merci Philippe Boyaki. Merci, à très vite.
À très vite.
À la réalisation, c'était Fodil. Bilal Edman que vous allez retrouver tout de suite là de 20h à 21h. Ensuite, c'est Vanessa de 21h à 23h. Kim demain matin dès 7h du mat. Et moi, je vous retrouve, eh bien, figurez-vous, 19h demain pour les informer. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait ? On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.